L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen, gloire à Dieu. Ce matin, le thème, c'est découvrir sa destinée. Découvrir sa destinée. Et le Seigneur a une destinée pour chacun d'entre nous. Je vais vous inviter, on va aller ensemble dans Jérémie chapitre 29. Et on va aller au 11e verset, Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Cette semaine, on a fait la publicité, dans les journaux, ici en région. On a posé la question, quelle est votre raison de vivre? Vivez-vous que pour le matériel, pour votre maison, votre auto? Vivez-vous que pour des choses temporaires? Ou avez-vous un but précis pour votre vie? Il y a plusieurs personnes qui vivent jour le jour, ils se lèvent, ils vont déjeuner, ils se préparent, ils s'habillent, ils vont travailler. Ils travaillent 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et puis, ils reviennent à la maison, sont épuisés. Ils se couchent, ils recommencent le lendemain matin. Et puis, jour après jour, après jour, après jour, on travaille. Mais pourquoi qu'on travaille? Bien, on a besoin de gagner de l'argent. Ah oui, mais pourquoi? Bien, il faut manger. Ah oui, mais pourquoi? Bien, pour vivre. Oui, mais pourquoi? Pour aller travailler. Pour me coucher le soir, me lever pour aller travailler. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils vivent leur vie juste pour le travail. Ben, pourquoi on a besoin de travailler? Ben, pour avoir une maison, avoir un auto. Mais on va laisser tout ça, n'est-ce pas? Quand on va mourir, on va laisser ces choses-là. Est-ce qu'on vit juste pour des choses? Non. Certains d'entre vous, vous dites non, vous le savez déjà. Mais il y a des gens qui vivent leur vie sans avoir un but précis. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut découvrir les promesses de Dieu, parce que Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Dieu a un but précis pour notre vie. Et quand on découvre ce but-là, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que notre vie a un sens. On a un sens, on a une raison de se lever. Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille pas, on est là, on est assis sur notre chaise, on écoute la télévision à journée longue? Non. Non, on travaille. En fait, la parole de Dieu nous dit qu'on devrait être vigilant et travaillant en plus. On est supposé être travaillant, mais c'est avec un motif différent. Et c'est avec un but différent. Si on fait juste travailler pour gagner de l'argent, pour se nourrir, bien là, on a manqué le but. On a manqué le but de notre vie. Mais si on travaille pour la gloire de Dieu, là, on va se réaliser puis on va être heureux. Donc, on va aller ensemble dans Jérémie chapitre 29 et le verset 11. On va passer quelques temps ce matin à voir quel est le but de la vie. Puis par la suite, vous allez avoir l'opportunité de faire un choix vis-à-vis de votre vie personnelle. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Au verset 12, il est écrit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » N'est-ce pas absolument merveilleux? C'est bon. On va prier ensemble. Père éternel, on veut vraiment se recueillir en ce moment. On veut, Seigneur, t'inviter par ta puissance, hein, par ton Saint-Esprit, à révéler ta parole, Seigneur, à révéler, Seigneur Dieu, le message que tu veux communiquer à chaque personne dans cette place. On t'invite, Seigneur Dieu, viens faire ce miracle dans chaque cœur, dans chaque vie. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dieu est bon et Dieu veut vraiment que vous puissiez entrer dans votre destinée. Mais le diable, lui, est méchant. Il veut vous voler votre destinée. Et on va voir ensemble dans Ecclésiaste chapitre 2. On va lire ensemble un passage, Ecclésiaste chapitre 2. Ici, on va voir un récit, c'est un texte qui nous... C'est une réflexion, en fait, du roi Salomon. Salomon qui était là et puis il faisait une réflexion sur sa vie. Il examinait les choses de sa vie pour chercher un sens, un but. Et on va s'arrêter pendant quelques instants et on va voir ces réflexions-là. Et on va s'arrêter, on va voir comment peut-être certains d'entre nous, nous sommes dans cette place-là dans notre vie. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça donne la vie. Heureusement, on va avoir une solution, une réponse à la fin. Dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11, ici le roi Salomon dit, « Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. eh bien, cela aussi part en fumée. Le rire est insensé et la joie ne mène à rien. Si on va s'arrêter, Salomon recherchait un but pour sa vie. C'est un homme vraiment très sage. Donc, il était conscient. Il était là, il était conscient qu'il était en train d'essayer de trouver le bonheur. Il était là à la recherche, à la poursuite du bonheur. Donc, on va voir ici, il y a plein de choses qu'il a essayé de faire pour finalement voir est-ce que ça me procure vraiment le bonheur. La première chose qu'on voit ici, il dit, bien, on va juste voir. Voyons ce que valent les joies de la vie. On va voir les joies de la vie, ce que le monde peut nous offrir. Découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Le rire est insensé et la joie ne mène à rien. C'est pas trop positif, n'est-ce pas? Ici, là, quand on fait une étude, on découvre que le roi Salomon a engagé des humoristes. Au Québec, saviez-vous que les humoristes sont très, très populaires? Les gens sont là, sont tellement dans le chagrin, sont déprimés, ils vivent une vie sans but. Et puis là, les fins de semaine, ils disent, bien, je vais aller me payer une soirée, je vais aller dans un théâtre et puis je vais me faire divertir par un humoriste. Et puis on va sortir la grosse argent pour aller voir un humoriste, pour nous faire rire et nous faire oublier un petit peu notre vie. Et en fait, quand on découvre un peu la vie des humoristes au Québec, on découvre que la majorité d'entre eux souffrent de dépression. Les plus grands noms, et je ne peux pas les mettre tous dans le même panier, mais plusieurs d'entre eux, et on a vu ça dans une revue récente, on voit les noms et ils partagent comment ils vivent ou ils luttent contre la dépression. Imaginez, on engage des gens dépressifs pour nous faire rire, pensant que peut-être on va avoir la joie, peut-être on va trouver la joie, mais c'est un non-sens. Mais ici, on voit le roi Salomon, il s'est dit, ben, je vais essayer de trouver la joie, et puis il s'est engagé. C'est un homme très riche. Imaginez, c'est un roi. Un homme très riche, il était capable de s'engager. Un humoriste à temps plein, viens chez nous à mon palais, et puis fais-moi rire. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il découvre? Il dit, rire est insensé, la joie ne mène à rien. Ça, c'est sa perspective, selon la joie du monde. Mais la joie de Dieu, ça n'a rien à voir ici, là. Au verset 3, j'ai décidé de goûter au plaisir du vin. Et d'imiter la vie des gens stupides, tout en restant maître de moi-même. Pourquoi rester maître de moi-même? Dans le sens, pour évaluer. Donc, j'ai goûté au plaisir du vin. Je voulais comprendre ce que les humains ont de mieux à faire pendant le temps de leur vie ici-bas. Parce que vous savez, nous avons un temps ici sur la terre. Un temps. On ne sera pas ici éternellement. Vous comprenez? Donc, le plaisir du vin. Verset 4. J'ai entrepris de grands travaux. D'autres personnes se perdent dans leur travail. Mais ici, j'ai entrepris de grands travaux. Je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs d'eau pour arroser une forêt de jeunes arbres. Il y a d'autres personnes qui se lancent dans une passion de jardinier. Hein, il y en a, c'est ça. Ils vont travailler jour après jour après jour après jour sur leurs fleurs dans leur jardin. En fait, j'avais une voisine comme ça. Elle passait chaque journée de son été. Je me souviens, on la voyait chaque jour du matin au soir. Elle était là, elle travaillait sur ses fleurs. Et je suis pas contre les fleurs ou le jardinage. Si vous aimez ça, soyez bénis. Mais je pensais, ces fleurs-là finissent par mourir. Même si on passe tout notre temps, on enlève les mauvaises herbes. Moi, en passant, j'aime pas ça, enlever les mauvaises herbes. Mais on passe notre temps, puis oh, c'est beau. Le lendemain matin, on se réveille, puis il y a d'autres mauvaises herbes. Ça ne dure pas très, très longtemps, n'est-ce pas? Mais le roi Salomon ici, bon, il s'est construit des maisons, planté des vignes, toutes sortes d'arbres fruitiers. Finalement, ce que ça lui a donné la joie. On continue au verset 7. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail, en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. Ici, il y avait un besoin de dominer sur quelqu'un et sur des bêtes. Et de posséder, de contrôler des gens. Il y a des gens comme ça. Ils sont là dans un travail quelconque et puis ils disent, ben, si je peux me rendre un tel point dans mon travail, dans ma carrière, là, je vais être quelqu'un et je vais pouvoir dominer sur les gens. Puis des fois, il y a des gens, moi, j'ai eu le privilège de travailler pour des personnes comme ça, qui ont dit, je veux me rendre un tel point et puis là, ils se sont rendus là et là, ils ont eu ce qu'on dit en québécois, un power trip. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Qui aimait ça des power trips? Qui aimait ça commander les gens? Non, vous, vous êtes tellement béni, vous n'avez jamais vécu ça. Mais ici, le roi Salomon, il s'est procuré des esclaves hommes et femmes. Puis même, il s'est acheté des animaux pour gouverner, pour posséder, pour contrôler. Verset 8. « J'ai amassé de l'argent et de l'or, trésors provenant des rois et des provinces qui m'étaient soumis, des chanteurs et des chanteuses. » Imaginez, donc, la richesse. Il y avait la richesse. Il y avait l'argent et l'or. Ensuite, ça dit « des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir. » Imaginez pouvoir engager Céline Dion. Vous êtes triste, vous cherchez le bonheur, mais vous dites « si seulement Céline Dion pouvait venir chanter dans mon salon chez moi, là, je serais heureux. » Il y en a d'autres qui disent « pas Céline. » Mais on l'aime Céline, voyons. On est Québécois, nous aimons Céline, pasteur Jérémy. Le Québec au complet aime Céline. Mais là, vous pouvez l'engager la star que vous voulez. Si seulement cette star pouvait venir chanter chez nous dans mon salon. Ben, le roi Salomon a eu ce privilège-là. Donc, personne, ils disent, « Mais si je gagnais la loterie, là, je serais heureux. Si je gagnais la loterie, là j'aurais plein d'argent, je n'aurais pas de problème. » Il dit, « Des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir et j'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. » En plus, quantité de femmes. Vous dites, « Mais combien de femmes? Une ou deux ou trois? » Non, non, dans 1 Roi, chapitre 11, verset 3, c'est dit, en parlant du roi Salomon, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Faites le calcul, 1000 femmes. Une femme, ça nous coûte en masse chère. Et là, 1000 femmes. Il y avait les moyens. Il y avait les moyens. Donc, il est à la recherche. Le roi Salomon est à la recherche du joie, quelque chose, de la joie, quelque chose qui viendrait le combler. Et puis, il s'est lancé là-dedans, dans le sexe, dans l'amour, la recherche. Au verset 9, « Je devins quelqu'un de considérable, bien plus considérable que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, je restais lucide. » Il était là, il examinait. Est-ce que ça va vraiment me procurer la joie? Après 1000 femmes, il n'était pas encore joyeux. Verset 10. Je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. En passant, je lis dans le français courant, Ecclésiaste 2, 1 à 11. Donc, si vous avez de la difficulté à suivre, c'est parce que la version des fois est différente. Ça dit au verset 9, je devins quelqu'un de considérable, bien plus considérable que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, je restais lucide. Verset 10, je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait donner, dans le sens potentiellement, ou théoriquement, les joies que cette terre pouvait m'offrir. J'ai essayé le fun des êtres humains. Alors j'ai considéré, au verset 11, alors j'ai considéré ou évalué toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. Wow! Et là, on pourrait s'arrêter là et dire, ben la vie vaut rien. Ça vaut rien de vivre. Hein, si on a la perspective du roi Salomon. Tout cela n'est que fumée. Course après le vent. Courir après le vent, imaginez, on ne l'attrape jamais. On court, on vit, on existe pour rien finalement. C'est ça que le roi Salomon il nous disait dans un temps où il n'était pas dans la révélation parfaite de Dieu. Mais ici, dans sa recherche, il partageait des choses ici. J'ai essayé, mais je n'ai jamais trouvé. Le roi Salomon évalue sa propre vie et ensuite on trouve dans le même chapitre, Ecclésiaste 2, verset 17 à 18, là on voit qu'est-ce que ça donnait. Bon, j'ai examiné ma vie, j'ai essayé, j'ai couru, j'ai essayé de trouver le bonheur. Et là, au verset 17, il dit, « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil dans ce monde m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance ou le plaisir à l'homme qui me succédera. » Sauf que j'ai travaillé, j'ai essayé d'avoir de la joie, du fun, Mais finalement, même les maisons, les palais, tout ça, je dois tout laisser à celui qui me succédera. Il était allumé, le roi Salomon. Il savait. Il pouvait discerner. Ça ne me donne pas la joie que je recherche. J'ai un vide en moi. Il y a un vide qui est là. Et comment ça, peu importe les efforts dans ce monde, je reste avec ce vide-là. Je reste vide. Puis il nous dit, j'ai haï la vie. J'ai haï la vie. Et peut-être, certains d'entre vous, vous êtes déjà passés par un moment comme ça, où vous avez haï la vie, ou peut-être c'est vous aujourd'hui, puis vous dites, mais qu'est-ce que ça me donne, vivre? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que j'accomplis avec ma vie? Quel est le but, ma raison de vivre aujourd'hui? Est-ce que j'ai une raison de vivre? Et le roi Salomon, même s'il était riche, même s'il y avait les femmes qu'il voulait, même s'il y avait le divertissement, tout ce qu'il pouvait avoir sur cette terre, ça le laissait vide. Et ne vous trompez pas, le péché procure un certain plaisir pour une saison. Mais après un bout de temps, ça va vous laisser desséché et vide. Et si on est intelligent, on va prendre le temps de s'arrêter pour considérer notre vie. Il y a des gens, la parole de Dieu nous les présente comme étant des insensés. Dans d'autres versions de la Bible, ça dit des stupides. Dites stupides. Stupides, oui, c'est un mot qu'on peut employer à l'Église. C'est des gens qui ne prennent pas le temps de s'arrêter pour s'examiner et voir pourquoi je vis. Pourquoi je suis ici? Il y a des gens qui passent leur vie, ils vont examiner toutes sortes de choses. Ils vont étudier des polices d'assurance pour aller en vacances, mais ils vont passer à côté de l'étude de la police d'assurance pour leur vie éternelle, pour leur esprit. Des fois, on est tellement terre à terre, mais on oublie que nous sommes un esprit. Nous sommes premièrement un esprit et nous habitons un corps. Mais si on fait juste s'occuper de notre corps en oubliant notre esprit, on va avoir manqué la raison de notre vie. Et si nous retrouvons la réflexion du roi Salomon, j'ai haï la vie. Maintenant, au bout de sa vie, on voit ici dans Ecclésiaste 12, on va plus loin, un peu plus loin dans sa vie plutôt, versets 13 à 14. Là, le roi Salomon révèle quelle est la véritable raison de vivre. Si vous n'avez rien écouté jusqu'à présent, écoutez maintenant. La vraie raison de vivre, que vous soyez très pauvre, très riche, ça, on est indifférent sur votre portefeuille. Qu'est-ce qui est important pour chaque être humain? Nous avons tous une raison de vivre, et voici ce que le roi Salomon nous présente. Écoutons la fin du discours ou la conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Cet homme-là qui a cherché pendant longtemps, voici la conclusion et dit, crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, craindre Dieu? Ça veut dire respecte Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu, avoir une révérence pour Dieu, c'est notre raison de vivre. Avoir une révérence, honorer Dieu avec notre vie. Si je vis aujourd'hui, c'est pour honorer Dieu, c'est pour craindre Dieu. C'est pour que ma vie soit un sujet de gloire pour le Seigneur. Mon but dans la vie, c'est de glorifier Dieu. C'est mon but dans la vie. C'est mon seul but, véritable. C'est que ma vie soit un parfum agréable dans les narines de mon Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Là, si vous dites, mais comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre la crainte de Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir peur de Dieu? Non, ici quand on parle de la crainte, on parle d'une révérence. Une révérence pour Dieu. Et quand on a une révérence pour Dieu, on comprend la chose suivante. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est qu'on va se détourner du mal pour poursuivre la présence de Dieu. Et en Dieu, nous savons que Dieu est amour. Dieu est merveilleux. Et quand on poursuit Dieu, on marche dans la lumière. On ne marche pas dans les ténèbres. On se détourne du mal. Donc, notre vie est là. On veut poursuivre la présence de Dieu. On veut honorer Dieu avec notre vie. Dans le psaume 19, verset 9, selon certaines versions, c'est verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Voyez-vous, les êtres humains, des fois, jugent d'une façon erronée. Des fois, on se dit, bien, Je peux aller vivre le party dans le monde pendant un temps. Je vais essayer d'avoir du plaisir. Je vais faire telle ou telle chose pendant un temps. Mais ça, c'est un jugement qui est en dehors du chemin parfait de Dieu pour notre vie. Mais les jugements de Dieu sont parfaits. Quand Dieu nous dit « marche ici », et là on dit « oui, mais mes amis, marche là », mais Dieu dit « marche ici », et ta vie va être une vie bénie, une vie heureuse. Mais là on dit « ouais, mais moi je veux faire à ma tête », et Dieu dit « correct, tu n'es pas un robot, il n'y a personne ici qui est un robot, nous ne sommes pas des robots, nous sommes libres ». Donc Dieu dit « j'ai un beau chemin préparé pour ta vie, un chemin tracé à l'avance pour toi, des projets de paix et non de malheur. Si vous marchez avec Dieu sur ce chemin-là, vous ne manquerez pas les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Dieu a préparé des jours pour votre vie. Et si vous êtes intelligent et puis vous dites, moi je veux marcher avec Dieu, je veux marcher avec lui sur le chemin un peu plus étroit, et je marche avec Dieu, et là tout au long de ma vie, je vais voir la main de Dieu. Je vais voir, je vais expérimenter la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je vais vraiment voir des choses glorieuses. Et comme j'ai déjà dit, même à la retraite de nos jeunes, à l'église ici, au camp, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le monde et goûter aux choses du monde pour découvrir que c'est pourri. Dans les poubelles, c'est des poubelles, et on ne va pas dans les poubelles, et on ne va pas au menu de la poubelle et dire, ben, je vais essayer telle chose. Non, quand c'est dans la poubelle, c'est clair que c'est mauvais pour nous. Et le chemin de Dieu est merveilleux. C'est un chemin où on est protégé, où la présence de Dieu est là, en nous, avec nous. Mais là, si on décide, ben, je vais faire à ma tête, je vais m'essayer, je peux vous dire, c'est toujours, toujours un détour. C'est un détour obligatoire. Et puis, c'est une place où vous allez vous faire blesser, où vous allez être attristé, vous allez vous faire, comme on dit en québécois, vous allez vous faire poquer un peu. Il n'y a personne qui fait son chemin, qui fait à sa tête sans vivre une conséquence. Il y a toujours des conséquences, puis ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut toujours votre bien, il veut votre bien en tout moment. Mais si on dit, ben moi je veux faire à ma tête, Dieu nous dit, correct. Ça attriste le cœur de Dieu parce que Dieu nous aime tellement, il veut préserver, il veut protéger ses enfants. Mais on est libre. La crainte de l'Éternel, dans le psaume 19, 9, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or. Si vous dites, ben moi je vais faire telle chose, ça va me procurer de l'argent, je vais être obligé de travailler en dessous de la table pendant un temps pour avoir plus d'argent, admettons. Je vais faire telle ou telle chose, je vais détourner le système. De toute façon, on croche de toute façon. Et là, vous embarquez sur votre chemin à vous. Et là, la bénédiction de Dieu s'enlève parce que Dieu ne peut pas bénir le péché et la fraude. Je donne ça comme exemple. Et puis là, vous pensez, bien là, quand même, je vais avoir du succès là-dedans. Et là, finalement, vous trouvez que c'est la faillite. Mais ça nous dit ici, ces jugements sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Si vous dites à quelqu'un qui veut vous engager, par exemple, bien là, veux-tu travailler en dessous de la table ou je vais travailler pour toi sans facture, ou des choses semblables. Puis vous dites, non, savez-vous, monsieur, madame, je veux payer mes taxes, je vais payer la TPS, je vais payer mes taxes. Ah oui, pourquoi? Parce que je veux le faire, c'est juste la loi. Et là, mais ça va vous coûter plus cher. Non, ça va me coûter moins cher. Ça va me coûter moins cher. Certains d'entre vous, vous comprenez. Ça va me coûter moins cher parce que si je débarque du chemin parfait de Dieu, ça va me coûter très cher. Je donne ça comme exemple. Je parle des finances, c'était pas préparé, mais je vous le donne. La crainte de l'Éternel est pure. Si vous avez une révérence pour Dieu, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans vos relations, mais vous dites, ma raison de vivre, c'est de plaire au Seigneur. C'est ma raison de vivre. Vous allez vivre la vie la plus glorieuse, la plus joyeuse. Mais dans le monde, on va toujours essayer de vous attirer d'une certaine façon, vous attirer pour vous sortir du plan parfait de Dieu. Et si vous prenez un détour, vous allez voir, on est toujours malheureux, en bout de ligne. Là, vous allez dire, ben, comment est-ce qu'on fait vraiment là? Si on veut vraiment craindre Dieu, si on veut vraiment respecter notre Dieu, on va craindre Dieu en glorifiant Dieu avec notre vie. On va aller ensemble dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 à 29. 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 et 29. 1 Chronique, chapitre 16, versets 28 et 29. Ici, c'est un appel que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, et c'est pour chaque personne sur cette terre. Un appel. Il est écrit, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints, de saints ornements. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit « dans l'éclat de sa sainteté. » Donc déjà, on peut dire, bien, on est comme ça. Nous, on va à l'église de la Victoire du Québec, donc on vient louer le Seigneur, on vient lui apporter la gloire, et c'est un bon début. Absolument, gloire à Dieu, si vous faites ça. Apporter des offrandes, et puis vous faites dire, ben oui, dimanche matin, je viens, je veux semer ma dîme, je veux semer mes offrandes pour l'église, pour l'avancement du royaume de Dieu, je veux vraiment offrir des offrandes, et on dit gloire à Dieu pour ça, absolument. Mais là, on va voir dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, puis ici, on va voir un texte dans Bible du Sommeur, ça nous parle d'une autre dimension d'offrande, et encore plus profonde, au lieu d'avoir juste des gestes où on veut apporter au Seigneur une offrande, le glorifier avec nos bouches, le louer. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il est écrit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Ici, ça nous dit une offrande, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre vie, notre corps, notre existence soit littéralement une offrande pour le Seigneur. On ne parle pas ici de mourir d'une façon physique. On est en train de parler de mourir à nos ambitions personnelles et adopter et prendre l'ambition de Dieu pour notre vie. L'appel de Dieu et dire, Seigneur, ma vie est à toi. Je t'ai donné ma vie. Je ne la reprends pas. Ma vie est vraiment pour toi, Seigneur. Glorifie-toi à travers ma vie. À travers ma vie. Et là, mon corps est un sacrifice vivant. Je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. C'est une offrande. Et là, ça dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Il y a plusieurs chrétiens qui peuvent se laisser influencer par le monde, modeler. On peut adopter les valeurs du monde et dire, bien, ma raison de vivre, c'est de m'acheter une passe de ski cette année. Et dire, moi, là, je mets de l'argent de côté, puis c'est correct de mettre de l'argent de côté pour le passe de ski. Mais si vous dites, bien, ma raison de vivre, là, c'est de faire telle ou telle chose, je vais aller faire du ski cette année. Et oui, mais là, c'est votre seule passion dans la vie. Après quelques années, est-ce que cette passion va vraiment être super passionnante? Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Donc, on veut vivre pour la gloire de Dieu. Vous avez dit, ouais, mais comment est-ce qu'on peut faire vraiment ça? Ah, c'est très, très simple. Je vous donne un autre verset, 1 Corinthiens 10, verset 31. Comment est-ce qu'on peut discerner comment faire telle ou telle chose pour Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut discerner ces choses-là? Moi, je dois travailler, pasteur. J'ai un travail du lundi au vendredi. J'ai des choses à faire dans ma vie. Comment est-ce que je peux vraiment glorifier Dieu d'une façon précise là, avec ma vie? C'est tellement, tellement simple vous répondre ça. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, ça dit « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout. J'ai rien à discerner. Tout. Toutes les choses dans ma vie, c'est pour glorifier Dieu. Ouais, mais là, quand je travaille au McDonald's, je prépare un Big Mac, est-ce que je glorifie vraiment Dieu? Oh, absolument. Absolument. Si Dieu vous a appelé, puis vous a dit, je t'appelle travailler au McDonald's pendant une saison, faites chaque Big Mac dans l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire, peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, quand vous êtes dans une saison dans votre vie, Dieu a peut-être des choses à travailler en vous. Laissez-vous modeler par Dieu. Le monde peut dire, ben là, si tu as de l'ambition, tu ne veux pas faire ça. Ne laissez-vous pas modeler par le monde. Si Dieu vous a dit de faire telle ou telle chose, faites ce que Dieu vous appelle à faire. Et là, vous êtes là, puis vous faites vos hamburgers, vous faites ce que vous faites, mais dans la joie de Dieu. Et ça se peut que quelqu'un au McDonald's, je donne ça comme exemple, mais quelqu'un qui a besoin de voir un visage souriant, Quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Et là, vous êtes le sourire resplendissant de la gloire de Dieu. Et là, la personne, après le 8 heures de travail, dit, écoute, je te vois, ça fait des semaines, tu as quelque chose, toi, que j'ai pas. C'est quoi cette chose-là? Et là, vous pouvez dire, ben c'est Jésus. Je vais te présenter mon meilleur ami. Et là, la personne entend parler Jésus, la personne reçoit le Seigneur. Et là, tout d'un coup, le Seigneur dit, ben là, je t'appelle à faire d'autres choses. Mais là, Seigneur, ma sécurité, c'est McDonald's. Oh non, ma sécurité, c'est Dieu. C'est-à-dire que là, vous travaillez pour Dieu. Si Dieu vous transfère dans un autre département, peu importe, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il demeure votre source et puis le canal vient de changer, c'est tout. Dieu va choisir un canal pour un temps, un autre canal. Mais qu'est-ce qui est important? On fait tout pour la gloire de Dieu. Si vous lavez un plancher, vous priez pour les gens qui vont marcher sur ce plancher-là. Vous lavez un mur. Oh, merci Seigneur Dieu, parce que les personnes qui vont toucher ce mur-là vont recevoir de toi. Ah, mais là, t'es capoté, tombé sur la tête. Ben, pourquoi pas? Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Je peux vous dire, si vous le faites vraiment, là, comme ça, puis vous avez la vision, l'optique, je fais ça, là, en ce moment, mais Dieu va se glorifier dans ma vie quand je fais ça. Hey, ça va vous encourager. Vous n'aurez pas le sentiment, oh, ben, je perds mon temps à faire ça, mais pourquoi je fais ça? Je tourne en. Non, je suis en train de répondre à l'appel de Dieu, et Dieu va se glorifier dans ma vie d'une certaine façon par ça. Amen. Donc, c'est simple, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous dites, ben, c'est impossible que Dieu se glorifie dans ma situation, c'est un travail au noir. Ben là, vous venez d'apprendre ce matin, changez de travail. Si vous dites, ben, c'est impossible, c'est un département, c'est une chose dans la vie qui est péché, c'est sûr que Dieu ne vous bénira pas là. Donc, vous venez d'apprendre une bonne leçon ce matin, changez d'ouvrage. Hein? Gloire à Dieu. Si vous vendez de la drogue, des affaires de même, changez d'ouvrage. 2 Chroniques 16, verset 9 maintenant. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il y a une personne qui était là en train de laver un plancher, puis la personne est en train de prier, « Seigneur, je te glorifie en lavant ce plancher-là. » La personne, on ne le sait pas, la personne est en train de prier en lavant le plancher. « Seigneur, que chaque personne qui rentre dans cette place reçoive ta touche. » Des choses aussi capotées de même. Puis là, la personne fait ça, là, et là, Dieu voit, « Son cœur est tout entier à moi. » Mais là, j'ai besoin que cette personne-là fasse d'autres choses dans mon royaume. Et là, la personne est transférée. Et là, on voit le Seigneur qui bénit. Comment craindre Dieu? C'est de respecter Dieu, c'est d'avoir une révérence pour Dieu. C'est notre raison de vivre. Si vous cherchez une autre raison, vous allez chercher longtemps. Puis je peux vous dire, probablement, vous risquez de ne pas avoir les privilèges que Salomon a eus. Vous risquez de ne pas avoir les possibilités de régner physiquement dans un royaume et d'avoir 1000 femmes pour voir si vous allez avoir la joie là-dedans. Vous risquez de ne pas être capable de faire comme lui. Mais déjà, vous pouvez apprendre de son expérience. La poursuite de la joie dans le naturel n'existe pas. La joie véritable et le but pour votre vie se trouvent seulement en Dieu. Et ce n'est pas juste dire « oui, je vais à l'église », mais c'est de dire « je vis et j'existe pour glorifier Dieu ». C'est ma raison de vivre pour que Dieu soit glorifié à travers ma vie. C'est ma seule raison de vivre. Puis là, vous dites, oui, mais j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, je veux prendre soin de ma famille. Absolument, en prenant soin de vos enfants, en prenant soin de vos responsabilités, vous glorifiez Dieu, certainement. Mais votre raison numéro un, c'est je veux glorifier Dieu avec ma vie. Puis à la fin de mes jours, je vais regarder en arrière et puis je vais dire, oh, merci Seigneur, j'ai pu te glorifier ici, j'ai pu te glorifier là. Et je peux voir vraiment comment ma vie a été consacrée pour toi, pour que ton nom soit élevé. Et là, vous dites, oui, mais si j'ai gagné une personne au Seigneur, est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Si vous passez toute votre vie et vous gagnez une seule personne au Seigneur, vous avez partagé la foi en Jésus-Christ, mais votre vie a porté des fruits. Ça vaut le coup? Mais il faut avoir cette vision-là. Dans Jean chapitre 15, verset 8, un texte super important. Si on veut vivre pour la gloire de Dieu, non seulement est-ce qu'on peut vivre pour la gloire de Dieu, mais Dieu nous appelle également à porter beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, vous pouvez dire, ben, « Je me réjouis d'avoir gagné une personne au Seigneur, Mais imaginez si vous en gagnez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous portez beaucoup de fruits, Dieu va être glorifié davantage. Dieu le Père va être glorifié davantage. Donc, on a répondu à la première question. Comment craindre Dieu? Première chose, c'est en glorifiant Dieu avec votre vie. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est en respectant l'appel de Dieu sur votre vie. Parce que Dieu vous a créé pour un but. Un but spécifique. Dieu a un but spécifique. Même quand vous étiez dans le sein maternel, quand Dieu vous a façonné dans le sein maternel, il y avait une destinée pour votre vie. Et si vous voulez vraiment glorifier le Seigneur, la façon de le faire, c'est en le respectant assez que vous allez répondre à l'appel de Dieu sur votre vie. Dieu vous dit, je t'appelle à faire telle chose. Voici ton appel dans la vie. Et si on est obéissant, on dit, Seigneur, je veux te glorifier avec ma vie, je veux exister pour toi, et tu me dis de faire telle chose, Seigneur, je dis oui. C'est facile à dire, là, mais c'est autre chose. Passe à l'action. Mais dis, Seigneur, ma vie t'appartient. Je réponds à ton appel. Je te dis oui, Seigneur. Des fois, vous dites, oui, mais moi, Dieu m'a montré, je serais telle personne, je ferais telle chose glorieuse. Mais comprenons aussi qu'il y a des étapes dans la vie où Dieu nous amène un jour après l'autre. Et des fois, on marche dans une saison, on sert dans une chose, et là, on est dans la volonté parfaite de Dieu à ce moment-là. Ensuite, Dieu nous amène à un autre niveau, et le Seigneur continue à nous bénir. Mais si on dit, Seigneur, je vais dans ton appel, ça, c'est la façon vraiment d'honorer le Seigneur. Appeler à faire quoi? Certains d'entre vous vous disent, ouais, mais quel est mon appel spécifique? Je peux vous dire, si vous êtes à la recherche pour avoir vraiment des choses spécifiques pour votre vie, je veux vous encourager à écouter l'enseignement « Comment trouver la direction de Dieu pour votre vie ». L'enseignement « Comment trouver la direction de Dieu » et on passe plus de temps à décortiquer des choses pratiques pour vous aider à ce niveau-là. Mais en général, le principe numéro un, nous sommes tous appelés à faire connaître Christ autour de nous. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Ce matin, c'est très simple l'enseignement. C'est très simple, mais si vous prenez ce message et le Seigneur reçoit votre oui, vous allez vraiment expérimenter la vie la plus glorieuse. Vous allez être les gens les plus heureux sur terre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Notre appel, c'est de partager notre foi avec les gens qui ne l'ont pas. Ça, c'est votre appel dans la vie. Si vous dites, oui, mais moi, j'ai à cœur telle ou telle chose, c'est merveilleux d'avoir des projets, des rêves. Dieu nous donne des rêves pour les accomplir, certainement. C'est correct. Mais notre premier rêve, notre appel numéro un, c'est de prêcher l'Évangile. Notre appel numéro un, c'est de faire connaître notre Sauveur à notre prochain. Puis si vous commencez là et vous dites, Seigneur, j'ai le ministère de la réconciliation. Si vous dites, Seigneur, je reçois cet appel. Je veux être un porte-parole de ton Évangile pour que les gens entendent parler de toi. Que les gens puissent vraiment saisir le message. Si vous dites oui, Seigneur, votre appel plus défini va se réaliser parce que vous allez répondre à l'appel numéro un. C'est que la première chose, je veux glorifier Dieu avec ma vie. J'existe, c'est pour prêcher l'Évangile. C'est pour ça que vous existez. C'est pour ça que vous êtes sur cette terre, pour glorifier Dieu en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous êtes là. Si vous avez vu dans le journal la question, si vous avez lu la question, quelle est votre raison de vivre? Quelle est votre raison de vivre? Moi, ma raison de vivre, c'est de vous prêcher Jésus-Christ. C'est pour ça que je vis. C'est pour vous prêcher Jésus-Christ, qu'il n'y en a pas aucun autre. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais c'est intolérant. » Absolument, on ne tolère pas le mensonge. On ne tolère pas les faux chemins. On ne tolère pas le chemin qui mène vers l'enfer. On est anti-enfer. Contre l'enfer, absolument. Si vous êtes sur un chemin et vous dites, ben, je vais essayer ce chemin-là pour voir si ça me rend au ciel, et ce n'est pas Jésus-Christ, je peux vous dire, vous vous trompez. Ah, mais tu ne marches pas dans l'amour. Non, c'est l'amour véritable, vous dites la vérité. C'est l'amour véritable, puis c'est ça qu'on veut faire. On veut faire connaître Jésus-Christ. Ensuite, On est appelé à connaître et voir notre but de vivre. Enfin, arriver à cette connaissance. Philippiens chapitre 3, on va aller ensemble dans Philippiens chapitre 3. On va lire verset 3 et verset 14. Donc, appelé à connaître et appelé à voir avec nos yeux notre but. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Remarquez, vers ce qui est devant moi. S'il y a quelque chose devant moi, c'est parce que j'ai une vision devant moi, n'est-ce pas? J'ai une vision. Ici, l'apôtre Paul, il dit, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. J'ai une vision céleste pour ma vie. Toute mon énergie est placée là pour accomplir cette vision. Je poursuis ma course vers le but. Pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. C'est ma raison de vivre. Si vous dites, ben moi, pasteur, c'est pas ma réalité. Je vis pour plein d'affaires dans ma vie. Je cours à droite et à gauche pour plein de choses. Aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter et dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vraiment vivre pour toi. S'il y a des choses qui sont juste des distractions dans ma vie, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre pour toi. C'est ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. J'existe pour toi, Seigneur. Je suis un esprit, j'habite un corps, je suis ici temporairement, pendant 120 ans peut-être. Puis, pendant que je suis ici, je veux que ma vie vaille quelque chose. Je veux qu'elle change des vies. Je veux que cet esprit qui habite ce corps, qui marche sur cette terre pendant ces années-là, je veux que cette vie compte pour l'éternité. Il y a des personnes qui s'en vont en enfer, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Moi, je veux être la personne qui donne l'espoir à ces gens-là. Je veux être la personne qui va annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus a payé vos dettes de péché. Vous n'êtes plus obligé d'être écrasé sous un joug qui vous écrase. Vous n'êtes plus obligé d'être là avec la culpabilité du péché ou dans un esprit de dépression et de découragement et même vouloir vous suicider tellement que vous êtes dans le désespoir. Je vais être la personne qui dit non, il y a de l'espoir en Jésus. Jésus est la lumière du monde. Tournez-vous vers Jésus, vous allez recevoir la liberté, vous allez être délivré, vous allez entrer dans la vraie vie, la vie en abondante, la vie en abondance. Amen. Donc, je cours vers le but. Dans Matthieu 6, 22, ça c'est un texte assez intéressant. Matthieu 6, versets 22 et 23. Je suis appelé à connaître mon but. Je suis appelé également à voir ce but-là devant moi. Matthieu 6, versets 22 et 23. Il est écrit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Et puis vous dites, « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Si on remplace, si ton œil, qu'est-ce qu'on fait avec l'œil? On voit. On voit avec nos yeux, n'est-ce pas? Si on remplace ici l'œil, puis on dit la vision, ta vision. Ta vision est la lampe du corps. Si ta vision est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ta vision est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, vous marchez dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Mais si vous marchez dans la vision, en fait, on peut voir la confirmation de Proverbe 19, verset 18, qui dit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » On vit dans les ténèbres, dans la noirceur. C'est lourd, c'est déprimant. Quand on n'a pas de vision pour notre vie, quand on est là, on fait juste exister pour s'acheter de l'épicerie, pour manger, pour se nourrir, pour aller travailler, pour dormir, pour commencer le lendemain. Quand c'est juste ça la vie, on est dans les ténèbres. Mais quand on a la vision, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas travailler, on va aller travailler, mais on le sait pourquoi qu'on le fait. On sait, je me lève ce matin, hallelujah, je m'en vais travailler à la banque ce matin, admettons. Là. Vous êtes banquier, puis vous dites, ben, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Oh, ça peut avoir à voir avec le Seigneur, ça. Mettons, vous êtes là, puis vous êtes une caissière, là. Puis là, quelqu'un vient déposer son chèque, puis c'est un chèque peut-être d'aide sociale. Puis là, la personne est un petit peu déprimée. Puis là, vous êtes une personne souriante. Puis là, la personne voit la gloire de Dieu sur vous. Puis là, la personne commence à trouver l'espoir en vous. Puis là, vous dites, ben, je prends ma pause dans 15 minutes. On peut prendre du temps ensemble. Ah oui? Oui. Puis là, après, vous commencez à parler de Jésus. Puis là, la personne trouve le Seigneur. Vous savez, là, ne méprisez pas votre position dans le monde. Des fois, les gens se méprisent tellement. Ils disent, ben, je travaille à telle place. Qu'est-ce que ça donne pour le royaume? Oh, ça peut donner quelque chose de glorieux si vous avez la vision de Dieu. Ça ne donne à rien vivre sans avoir une vision. Je peux vous travailler. Moi, j'ai travaillé 6 ans dans l'hôtellerie. Et j'ai pris, et je peux vous dire, j'ai quitté l'université parce que Dieu m'avait appelé au ministère. J'avais quitté, j'avais fait l'école biblique par la suite. Là. Mais j'ai quitté pendant un temps le monde de l'université pour répondre à l'appel de Dieu. Mais j'étais obligé de poursuivre mon travail dans l'hôtellerie. Puis d'un côté, terre à terre humain, j'étais déprimé. Puis je disais, Seigneur, je voulais être à l'université. Puis là, j'ai tout quitté pour toi. Puis je ramasse des tasses sales. J'étais déprimé. Seigneur, ça ne me tente pas de ramasser des tasses sales. J'ai travaillé 6 ans. 6 ans à faire ça. Puis, savez-vous, qu'est-ce que ça a été pour moi? Ça a été formateur. Puis aujourd'hui, là, je n'ai pas peur de travailler. Puis je ne suis pas assez haut que je ne suis pas capable de me mettre à terre et laver le plancher. Parce que le plus grand d'entre nous sera votre serviteur. Si vous êtes le nez trop élevé pour servir dans votre église, servir dans votre maison, monsieur, d'aller mettre votre assiette dans la vaisselle, Dieu peut vous changer. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, je dis ça, monsieur, mais ça se peut que s'il y a des femmes aussi qui ne le font pas. Mais écoutez ce que je suis en train de vous dire. J'ai travaillé pendant 6 ans dans l'hôtellerie. Au début, j'étais bien content. C'était très bien parce que j'étais dans une job que j'aimais. C'était bien payé pour mon âge. Mais après, je me suis marié. Puis là, je voulais vivre d'autres choses. Puis après, je priais, puis je vous ai déjà raconté cette histoire-là, puis je vais vous le dire encore, gloire à Dieu. Puis Dieu m'a dit, quand cette personne-là va être sauvée, je te relâche. Bien là, je me suis mis à évangéliser en Titi. J'ai évangélisé, puis le jeune homme a donné sa vie au Seigneur, et là, j'ai été relâché, puis j'ai fait d'autres choses. Mais si j'avais dit, bien là, qu'est-ce que ça donne laver des tasses sales, ou ramasser des tasses sales plutôt? Qu'est-ce que ça donne? Puis là, j'avais chialé. Bien, je serais peut-être encore là aujourd'hui. Mais vous avez un but et ne prenez pas comme les étapes de votre vie comme étant des échecs. Si vous avez la perspective, ça ne donne rien. Bien, ça ne donne rien. C'est malheureux, mais c'est ça. Si vous le dites en plus, oh, je tourne en rond, bien, tourne en rond. Mais si vous dites, en ce moment, le Seigneur m'a dit de faire ça. Je ne vois pas ce que ça donne, peut-être, mais Seigneur, donne-moi ta vision. Donne-moi ta vision dans ce que je fais. Et là, Seigneur, vous rêvez, la nuit, vous rêvez à votre travail. Vous avez tellement hâte d'aller répondre à l'appel de Dieu à votre travail. Puis si vous travaillez avec des papiers, là, je ne sais pas, vous êtes à votre travail, puis l'onction de Dieu est sur vous. Puis là, vous travaillez parce que vous avez une vision. Là. Tout ce que je fais, là, Dieu est en train de travailler en moi, puis moi, je suis un porte-parole pour Dieu. Je suis le oint de l'Éternel dans cette place. Hey, j'ai la responsabilité d'être dans ce milieu pour être un porteur de la gloire de Dieu. Ça donne que moi, je suis dans ce bureau-là, puis c'est moi qui ai le privilège de représenter Jésus-Christ, le roi des rois, dans ce milieu-là. Et la gloire de Dieu qui émane de ma vie, transpire partout. Les gens rentrent dans mon bureau, ils sentent la présence de Dieu. Mais là, pasteur, moi, c'est parce que je suis un aide de bœuf, là. Tu me connais pas. Et ça peut changer aujourd'hui, ça. Je peux changer. Oh, oui, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Si vous êtes un air de bœuf, devenez un air de... quelque chose qui rime avec bœuf. De Dieu, un air de Dieu. OK, je continue. Un air de Dieu. Absolument, mais il faut avoir une vision pour notre vie. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier de plus belles et de plus grandes choses. C'est merveilleux. Amen. Appeler, je termine, c'est mon dernier point. Je prends juste 10 pages, non, c'est une joke. Mon dernier point... Bon, on est appelé à faire connaître Christ avec notre vie, c'est notre but. Appelé à connaître et voir notre but. Ensuite, appelé à être extraordinaire. Extraordinaire dans cette vision-là. Dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 et 21. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Et là, la majorité des chrétiens évangéliques du Québec disent « C'est moi, c'est moi, c'est moi. » Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et là, les chrétiens évangéliques du Québec disent « C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis tellement humble, Seigneur. Je suis tellement humble. » Là, le verset 21 nous dit « Si donc quelqu'un se conserve pur, avez-vous remarqué que d'être dans la volonté de Dieu, que Dieu est pur, on a mentionné ça avant, les lois de Dieu, ses jugements sont purs. Sinon, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, en parlant des péchés précédents, il sera un vase d'honneur. » Oh! Quelqu'un choisit d'être un vase d'honneur ici, là. Si donc quelqu'un se conserve pur, ben c'est Dieu qui doit me conserver pur. Par le Saint-Esprit qui agit en nous, si on se soumet à Dieu, si on coopère avec le Saint-Esprit, certainement, on peut choisir de marcher dans la pureté. On ne peut pas blâmer Dieu et dire, « Ben là, Dieu ne m'a pas gardé pur. Hein, » On ne peut pas dire ça. Ça dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, qui veut dire mis à part dans la sainteté, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous pouvez décider d'être un vase d'honneur pour le Seigneur dans votre vie, et dans l'Église de Jésus-Christ. Être un vase d'honneur et dire, ma vie, je suis un vase, et ce vase-là va glorifier le Seigneur. Et ma vie va honorer le nom de Dieu. Ma vie est consacrée à Dieu, mise à part pour Dieu. Puis je veux vraiment qu'on prenne le temps, juste pendant quelques instants. Dieu vous appelle personnellement, Dieu vous appelle à devenir extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut être une personne ordinaire et on peut être une personne extraordinaire. Qui veut dire on n'est pas ordinaire? Non, je veux dire, qui veut dire? Ceci veut dire qu'on n'est pas ordinaire. Ça veut dire qu'on est extraordinaire. OK, mais comment est-ce qu'on peut être extraordinaire? C'est en n'étant pas ordinaire. C'est compliqué, hein? C'est très, très profond et théologique, je le sais. On peut vivre une vie ordinaire et être ordinaire. Ou on peut dire, moi, je choisis de devenir, mais je me choisis de me conserver pur pour Dieu, répondre à l'appel de Dieu et devenir un vase d'honneur pour Dieu. C'est ça que je choisis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit, dans le psaume 60 et le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je peux faire des exploits à mon travail, mais dans notre appel en tant qu'Église, savez-vous que Dieu nous appelle dans cette Église? Dieu vous appelle à être extraordinaire et ensemble, nous ferons des exploits au Québec. Ensemble, nous ferons des exploits, nous allons faire des choses extraordinaires en dehors du monde ordinaire, en dehors des choses juste terre à terre, des choses qu'on peut s'attendre, mais on va faire des choses du jamais vu. On va faire des choses du jamais vu parce que Dieu, il n'y a pas juste une vieille cassette VHS qui pèse play, rewind, toujours la même chose. Non, nous avons un Dieu vivant et ce Dieu vivant a des projets pour nous, des projets spécifiques pour cette maison. Et ce qu'on veut faire, c'est répondre à l'appel de Dieu et devenir les personnes extraordinaires que Dieu veut qu'on soit. Puis moi, je suis prêt à devenir extraordinaire. Mais là, vous dites, oui, mais moi, je suis tellement humble, pasteur, que je ne pourrais jamais viser comme ça. Je veux vraiment être en bas, là, puis me cacher sous le tapis. Personne ne me voit. Non, soyez délivrés au nom de Jésus. Devenez extraordinaire, afin que Dieu soit glorifié dans vos vies. Imaginez, Dieu vous a créé, vous a donné un but, et ce but-là, c'est de glorifier Dieu avec votre vie. Mais là, vous voulez vous cacher. Ne vous cachez pas. Laissez la gloire de Dieu resplendir dans vos vies. Devenez extraordinaire pour la gloire de Dieu. Et là, ouais, mais pasteur, je suis une personne simple, je n'ai pas sa faveur. OK. Il y a trois choses qu'on doit tuer, trois vaches sacrées. On va juste les tuer avant d'aller à la louange, OK? Trois vaches sacrées, on va sortir nos fusils. Je suis une personne vraiment simple. Dans Proverbe 18, verset 16, je vais vous lire dans la version Darby. Proverbe 18, verset 16, il est écrit, « Le don d'un homme lui fait faire place, ou en Louis II, ça dit, lui élargisse la voie et l'introduit devant les grands. » Ou dans Louis II, c'est dit, lui donne accès auprès des grands. Là, si vous pensez, ben moi, je vais toujours être une personne dans le terre à terre, et puis je ne peux pas m'attendre de vivre des choses très, très glorieuses. Mais savez-vous, si vous êtes prêt à vous divorcer de ces idées-là de simplicité et dire, je suis prêt là à glorifier Dieu à tous les niveaux, ça se peut bien que Dieu va vous mettre en contact avec des gens qui sont les grands de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens de la terre, et puis il a besoin d'avoir des chrétiens qui sont prêts à briller et à être vus. Oui, imaginez, Dieu a besoin des gens qui vont se lever dans la foi, dans leur conviction et leur désir de servir Dieu. Vous êtes là, vous vous levez, vous prenez votre place en Jésus-Christ, vous ne croyez plus que vous êtes des moins que rien, mais vous le savez que vous êtes des enfants de Dieu, et votre but, votre raison de vivre, c'est de glorifier Dieu. Vous le savez, vous réveillez le matin et vous dites, « Bon matin, mon cher Jésus, je t'aime de tout mon cœur, Père éternel, je t'aime. » Là, vous vous réveillez le matin, sachant que vous allez vivre cette journée-là pour glorifier Dieu. Là, vous marchez comme ça, et là, Dieu vous a donné des dons, des talents, et là, ça s'adonne que Dieu a besoin de ce don-là à telle place en société. Et peut-être Dieu vous appelle à entrer en politique. Est-ce que ça se peut? Absolument. Vous savez, j'ai une amie, j'ai vu un courriel cette semaine, une amie, elle est présentement en Israël, elle est là pour prier avec des leaders en Israël, pour prier avec eux parce qu'ils sont en guerre en ce moment, si vous ne saviez pas, ils sont en guerre. Mais je me dis, mais comment ça, elle, là, elle a toujours la faveur avec les grands? Bien, c'est simple, c'est écrit ici. Le don d'un homme lui fait une place, ou donne accès auprès des grands. Sauf que si Dieu vous donne un don, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est toujours pour sa gloire. Puis là, l'autre excuse, « Ouais, mais pasteur, moi, je n'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, j'ai pas les finances, puis je suis un chrétien, sauf que les chrétiens, on est pauvres, là. Tu connais ça, là, comme l'apôtre Paul, là. Qu'on est, comme ben, vous savez, l'apôtre Paul, on ne rentrera pas là-dedans, j'ai fait la série, mais on peut twister les affaires, puis rendre, en tout cas, plein de personnages dans Parole qui étaient très, très fort riches, comme Isaac, hein, puis tout ça. Puis là, il dit, ben là, ils sont pauvres. On peut embarquer, puis commencer à glorifier la pauvreté, à emprunter la doctrine du vœu de la pauvreté, puis amener ça dans nos églises évangéliques, comme on a fait depuis toujours au Québec. Ça, c'est anti-biblique. Mais là, dire, ben là, on est pauvres, on ne peut rien faire, nous, nos mains sont liées dans la pauvreté. Oh, on aimerait ça évangéliser le Québec, mais on est tous une gang de cassés. Et on peut rêver, mais on est cassés, on ne peut rien faire. Et on le dit de notre bouche, on le croit dans notre cœur, on le déclare et c'est ainsi. Mais, regardez bien, là, je vais vous passer au défi. Si vous dites, Dieu m'a mis un appel, mais je n'ai pas les finances, je n'ai pas les ressources, je suis pris. Oh, gloire à Dieu, on va faire du ménage. Là, on va tuer une vache sacrée ou on va sortir la balayeuse du Saint-Esprit puis on va siphonner ça. Là, on va aller voir ensemble. 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. Êtes-vous prêts? Si vous aimez trop la pauvreté, bloquez vos oreilles, là. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Regardez bien. Là, l'apôtre Paul, il dit à son fils spirituel, Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, « Recommande aux riches. » Ah, ça veut dire Paul. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, « Recommande aux riches. » À quelque part, Timothée va avoir le droit de parler aux riches. Et ça veut dire, si Timothée prêche, là, puis il y a des riches qui sont là, bien, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont riches. Oh, mais Dieu va les rendre pauvres, là. Donne-lui le temps, pasteur, là. Dieu va les appauvrir. Regardez bien. C'est que là, premièrement, recommande aux riches de tout donner puis devenir pauvres. Non, c'est pas ça que ça dit. Recommande aux riches du présent siècle, des gens qui sont avec vous, là, de ne pas être orgueilleux. Ah, ça, c'est une bonne chose, de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est ça qu'on n'est pas supposé de faire. C'est placer notre confiance dans la richesse. Parce que s'il y a une crise économique et la richesse disparaît, si c'était notre Dieu, bon, on vient de perdre notre Dieu. Mais si on est capable d'avoir notre confiance en Dieu et que le Seigneur nous bénit financièrement en même temps, puis on garde toujours nos yeux sur notre source qui est Dieu, bien Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Ce n'est pas l'amour de l'argent, oui, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. On a vraiment mal lu notre Bible. Si on aime l'argent, c'est un péché. Mais si on aime Dieu et Dieu nous donne l'argent, ça, c'est correct. OK, mais je continue. OK. recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Oh, écoutez bien la révélation suivante. De la mettre en Dieu. Vous mettez votre espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour quelque chose. Là. Regardez bien. Là. Le Dieu de la Bible, pas le Dieu de la religion, de la tradition, là, mais le Dieu de la Bible, ça dit qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, ou dans le grec, pour votre très grand plaisir. C'est ça que ça dit dans le grec. Que Dieu vous donne avec abondance toutes choses pour votre très grand plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si Dieu vous donne quelque chose, vous n'aimez pas cette chose-là. Vous aimez Dieu et vous appréciez la chose que Dieu vous a donnée, mais votre amour reste toujours pour le Seigneur. Parce que si Dieu vous dit cette chose-là, maintenant j'ai besoin que telle personne la reçoive, vous êtes juste quelqu'un qui administre les biens de Dieu, vous dites « Oui Seigneur, cette chose-là, je suis prêt à la relâcher maintenant. » Et vous savez que votre Dieu vous donne toutes choses en abondance pour votre grand plaisir. Vous savez qu'il va avoir d'autres choses pour vous, que Dieu ne vous laissera pas mendiant dans la rue. Bon, là, je dérange les traditions religieuses. Alléluia. Mais c'est important de voir ça. Ça veut dire, regardez bien, mais de la mettre en Dieu. Notre confiance est en Dieu qui nous donne. Avez-vous lu votre Bible? On dirait que vous êtes là, puis vous êtes tout un choc. Au nom de Jésus, revenez. Oh! Êtes-vous avec moi, enfant de Dieu? Oui, est-ce que j'ai lu la Bible? Est-ce que vous avez des yeux? Avez-vous une Bible? OK, là, lisez ce verset-là. Vous avez besoin de voir. Je pense que vous avez besoin que vos yeux voient que c'est vraiment dans la Bible. Parce qu'il y en a, vous avez entendu tellement de traditions, des années de temps. Vous avez gobé le mensonge du vœu de la pauvreté. Vous avez cru ça. Repentez-vous. Dieu n'a pas besoin d'une gang de cassins pour répondre à son appel. Dieu veut vous bénir financièrement pour être une source de bénédiction pour son royaume. Puis en passant, les projets que Dieu nous donne pour cette église, ça nous coûte de l'argent. Ça fait que si là vous êtes disponible à ce que Dieu se serve de vous comme un canal pour bénir l'œuvre de Dieu, Dieu va vous bénir. Mais si vous êtes bloqué à cause de la tradition, soyez débloqué au nom de Jésus. C'est toujours une question de motif, pureté de cœur, tout ça, c'est super important. Bon, là... Regardez, je vais le relire. Là, vous avez tourné dans vos Bibles. Vous êtes là, dans vos Bibles, là. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Si on veut rentrer dans notre appel, répondre à l'appel, prêcher Jésus-Christ, et si on s'imagine qu'on va le faire gratuitement tout le temps, on se trompe. On se trompe. Regardez bien qu'est-ce que la Bible nous dit. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions ou pour notre très grand plaisir. Je continue. Recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. Ça veut dire de la générosité. De la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Afin de saisir la vie éternelle. Le fondement solide au ciel ne vivra jamais de récession, de dépression. Non, lorsque Dieu est notre source, lorsque nous marchons dans l'obéissance au Seigneur et nous vivons que pour Dieu. Tout ce qu'on est, notre vie appartient à Dieu. Tout ce qu'on est, nous appartenons à Dieu. Donc l'excuse numéro 2 que je vous ai donnée, ben, je n'ai pas les moyens de répondre à l'appel de Dieu. On vient de tuer cette vache sacrée. Si vous avez cru ce texte-là, en passant, je pourrais vous prêcher pendant une heure sur les finances, parce que la Bible nous donne plusieurs versets. Plusieurs versets sur les finances. On parle plus des finances dans la parole de Dieu qu'on parle de la prière. Les pasteurs, en général, ne sont jamais gênés de parler de la prière. Ils sont gênés, ils ont peur de parler des finances. Je ne suis pas gêné. Pas du tout. Je continue. Excuse numéro 3 et notre dernière excuse. Ah, mais je n'ai pas le temps. Je sais qu'il n'y a personne dans cette église qui a dit ça. Écoutez bien, Jésus a été obligé de dire ça à ses disciples. Jean, chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus dit, allez les boys, regardez là, il y a un champ missionnaire, il y a une terre missionnaire devant vous. Donc, les disciples avaient besoin de saisir cette réalité. Dieu nous appelle à vivre pour lui. J'ai un but pour ma vie, c'est de vivre pour le Seigneur, c'est de le glorifier avec ma vie. Par la suite, je veux vraiment marcher dans son appel, dans son onction, et devenir une personne extraordinaire qui marche dans la foi, qui répond à l'appel. Si Dieu m'appelle à aller parler avec le premier ministre du Canada, et j'ai l'opportunité de jaser avec lui, puis prier pour lui, bien, je vais y aller. Ben oui, pourquoi pas? Ben ça ne pourra pas m'arriver, pasteur. Ben si vous le dites, ça ne vous arrivera jamais. Mais j'ai une amie, ça y est arrivé. Une jeune femme de Dieu. Le premier ministre du Canada l'appelle, « J'aimerais ça, tu pries pour moi. » Et c'est une femme qui dit que Dieu pouvait servir d'elle. Ah, mais elle n'a pas de formation théologique. Non, elle a un Dieu puissant, puis elle a donné sa vie à Dieu. Je donne ça comme exemple. Sauf que j'ai les moyens, j'ai la faveur, j'ai le temps, j'ai tout ça. J'ai 24 heures par jour, imaginez-vous donc. Sauf que si je prends ma vie, puis je dis, « Seigneur, là, je te donne vraiment, je te donne ma vie. Je veux que ma vie compte pour l'éternité. Je ne veux pas la gaspiller. Je ne veux pas passer à côté. » Si vous avez gagné une personne au Seigneur, mais déjà là, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez dire, ma vie, là, hey, c'est merveilleux. Elle a servi à conduire une personne à Jésus-Christ. Vous pouvez vous réjouir déjà. Mais si vous dites, ben, je ne l'ai pas vécu encore, ben, vraiment, continuez à briller pour Jésus et vous allez voir, le Seigneur va se servir de vous pour amener des âmes au Seigneur. Puis si vous dites, ben, j'en ai déjà conduit une ou deux personnes, ben, continuez à briller. Et le Seigneur va rajouter, le Seigneur va multiplier et votre vie va vraiment porter la gloire au Seigneur, va apporter cette gloire pour le Seigneur. Ah, oh, n'est-ce pas merveilleux? Dieu vous a donné un appel spécifique pour votre vie. Mais avant de découvrir des fois les choses spécifiques, on a besoin de comprendre l'appel numéro un et c'est celle de vraiment glorifier Dieu avec nos vies. C'est d'être ce porte-parole pour le Seigneur. Puis là, je veux vous dire, vous savez, dans cette église, on a tellement des grands projets. Puis je veux que vous puissiez comprendre, vous avez une place. Vous avez une place à briller dans cette église. Le Seigneur va se glorifier à travers chacun d'entre vous. Vous avez une part à jouer. Quand le Seigneur vous donne quelque chose, des fois, peu importe, il y a toutes sortes de façons, tellement de ministères dans cette église où vous faites servir et glorifier le Seigneur. Il y a une place pour vous. Il y a une place pour que vous puissiez servir le Seigneur. La semaine prochaine, on va passer du temps, on va vous donner la vision pour cette église. On va vous présenter des nouveaux ministères. Peut-être avant cette réunion, quand on va avoir notre brunch, peut-être vous allez prier avant de venir. Et vous allez peut-être dire, Seigneur, parle-moi ce matin, ce dimanche matin-là. Parle-moi, montre-moi s'il y a des choses nouvelles que je dois faire. Si tu m'appelles à faire telle chose. Vous savez, qu'est-ce qui me bénit quand on répond à l'appel de Dieu? Des fois, ça semble comme, je suis incapable de faire telle ou telle chose en ce moment, je suis incapable. Mais quand Dieu dit, vas-y. Et là, vous dites, OK, Seigneur. Et là, vous dites, tu marches sur l'eau. Là, savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Là, vous voyez la provision surnaturelle de Dieu qui vous donne l'énergie pour la faire. Au début, vous étiez là, ben, je pense pas que je suis capable. Mais si Dieu dit, vas-y, ça veut dire que vous allez être capable. Savez-vous ça? Hey, grande nouvelle, si Dieu dit, faites-le. Il va vous donner l'énergie, il va vous donner la faveur, il va vous donner tout ce que vous avez besoin. C'est merveilleux. Quand Dieu parle, écoutez. C'est simple. Hein? C'est pas trop compliqué. Quand Dieu parle, quand le papa parle, nous on dit « Oui, papa! » « Oui, papa! » C'est merveilleux. Je sais pas comment finir. On va finir. On va se lever ensemble. J'ai invité l'équipe de la louange. Une des choses, si vous dites « ben moi, ma vie m'appartient encore », si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, c'est un moment important. L'équipe de la louange va nous conduire dans un chant, mais j'aimerais ça, pendant qu'on est là, qu'on s'est levé ensemble, on va vivre un moment solennel en ce moment. Pendant que les têtes sont penchées, chaque personne, vous penchez vos têtes en ce moment et entrez dans un esprit d'intercession en ce moment. Si une personne ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, vous êtes encore sur le chemin de la perdition. Vous êtes encore vers la route de la destruction éternelle. Vous êtes vers ce chemin, vers l'enfer. Malheureusement, je dois vous le dire, c'est dans la Bible, Jésus a prêché sur l'enfer. Et puis, le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour vous sauver, pour vous empêcher d'y aller. Il ne veut pas que personne passe l'éternité séparée de Dieu et qui brûle éternellement dans l'enfer. Et vous dites, ben, vous croyez encore là-dedans? Absolument, on croit encore la parole de Dieu qui fonctionne toujours en passant. La Bible dit toujours vrai. Et Jésus nous a mis en garde. Ceux qui vont au ciel, c'est juste ceux qui ont réalisé qu'ils étaient pécheurs, qui avaient besoin d'être pardonnés, qui ont dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, je te donne ma vie, fais de ma vie quelque chose. Je te donne ma vie. » Et là, le Seigneur, il est là et il dit, « Je te prends, je te pardonne, je te purifie. Et là, laisse-moi agir dans ta vie pour que tu puisses vraiment voir ma gloire. » Et là, on se donne au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous sauve, nous transforme. J'ai eu un témoignage cette semaine, une jeune femme qui a accepté le Seigneur récemment. Elle fumait avant de venir à l'église. Puis là, depuis qu'elle a donné son cœur au Seigneur, elle s'est réveillée un matin, elle n'avait plus le goût de fumer. Le goût était parti. Elle a même pensé, est-ce que je devrais fumer peut-être? Non, le goût, il levait, l'idée, il lui levait le cœur, tellement que le Seigneur l'avait délivré de même. C'est merveilleux, c'est le fun. Le Seigneur, il a des projets de paix et non de malheur, mais le malheur vous attend en ce moment si vous n'avez pas fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Pendant que les têtes sont penchées en ce moment, j'aimerais seulement demander s'il y a une ou des personnes ici qui diraient, aujourd'hui, là, je suis tanné de vivre ma propre vie, je veux la donner à Dieu. Je m'abandonne à Dieu aujourd'hui. J'abandonne ma vie à Dieu, puis je lui dis, je te donne ma vie. Prends ma vie. Je vais te demander de me pardonner, de me purifier. Je vais juste prier avec vous. Et aujourd'hui, votre vie va changer. Si vous êtes au bout du rouleau, le Seigneur vous donne un nouveau rouleau. Il vous donne une nouvelle vie. Il vous donne de l'espoir. Il vous donne le ciel. Il vous offre toutes ces choses-là. Mais juste vous, qui pouvez dire au Seigneur, oui. Dieu vous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais vous devez dire oui. Comment est-ce qu'on fait? Levez juste la main là où vous êtes, comme signe d'abandon, et je vais voir et je vais prier avec vous. On ne veut pas humilier personne, mais on veut se réjouir avec vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, ou si vous êtes même éloigné pendant un temps, merci. Si vous êtes éloigné de Dieu pendant un temps, puis vous dites, j'ai besoin de revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. J'ai vécu pour moi-même pendant trop longtemps. Je veux revenir. Et maintenant, on va prier ensemble. Je vais vous demander de répéter après moi. Tout le monde ensemble, répétez avec moi dans la foi. Et le Seigneur va répondre. Père éternel, je viens devant toi. Seigneur, j'abandonne ma vie. Entre tes mains. Prends ma vie, je te la donne. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je reçois la vie éternelle. Je reçois ma délivrance. Je reçois ta lumière. Je marche à partir de ce moment dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, Dieu l'a vu et Dieu vous a adopté dans sa famille. Vous appartenez au Seigneur à partir d'aujourd'hui. Et continuez à marcher avec lui. Vous allez découvrir la vie la plus glorieuse sur cette terre. Pas la vie de la religion, pas la vie d'une église, d'un mouvement, mais la vie avec Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour vous, qui est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Il l'a fait par amour pour vous. Amen. On te remercie parce que tu t'es révélé à nous. Je te remercie pour la vision nouvelle que tu donnes à chaque personne dans cette place. Chaque personne reçoit aujourd'hui leur vision pour leur lundi matin. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que c'est une maison remplie de passionnés pour toi. Des gens qui vivent pour toi. Des gens qui existent avec un but qui est le tien, un but éternel. Oh, merci Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, je décrète ton shalom, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus, sur chaque tête. Oh, ton shalom est là, ta bénédiction est là. Merci Seigneur Dieu, parce que nous partons dans la foi, nous partons fort en toi, revêtus de ta puissance. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Soyez bénis, rappelez-vous, la semaine prochaine, le brunch des visionnaires. Et en même temps, en quittant, n'oubliez pas d'écrire votre nom si vous voulez participer. Tout le monde devrait être là, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Soyez bénis, passez un bon groupe. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec. Pour l'amour de la francophonie.